Vous êtes sur RTL.
Et demi.
RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, votre rendez-vous d'information de la mi-journée avec à la une les premiers talibans aperçus à Kaboul, la capitale afghane, dernière grande ville du pays qui échappe encore au contrôle des combattants islamiques à la faveur du retrait de l'armée américaine. Dans l'actualité aussi, l'ombre de l'antisémitisme dans les manifestations anti-pass sanitaire. Lourdes qui renoue avec la ferveur en ce dimanche de l'Assomption. Et puis le début de la saison des Mirabelles, malgré la météo capricieuse de ces derniers mois, les producteurs nous promettent qu'elles sont particulièrement belles, grosses et parfaitement sucrées. Dans un quart d'heure, on partira sur les chemins d'écrivains avec Bernard Lehu. Bonjour Bernard.
Bonjour à toutes et à tous.
Direction le Finistère.
À Douarnenez, en Bretagne, avec un guide exceptionnel, le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clézio.
À tout à l'heure, Bernard. La météo, Valérie Quintin, il va faire encore très chaud cet après-midi, mais les orages arrivent.
Oui, c'est vrai que ça va tourner à l'orage cet après-midi et ce soir aussi d'ailleurs, entre le Jura, le Massif central et les Pyrénées. D'ailleurs, sur les Pyrénées, c'est déjà un petit peu chargé. On a même quelques averses orageuses déjà en cours. Ceux qui étaient présents entre la Bourgogne et la Franche-Comté ont filé avant la prochaine salve. Donc, dans le courant de l'après-midi, partout ailleurs, un temps toujours très ensoleillé, un petit peu plus de nuages sur la pointe bretonne et sur le Cotentin. Et puis, attention toujours à cette chaleur, malgré tout, qui sévit encore, notamment dans le sud, avec quelques 38 degrés attendus à Castres et Avignon au meilleur de l'après-midi, 37 degrés à Aubenas, comptez 34 à Limoges, 32 degrés à Nice et à Belfort, 31 à Paris et 28 degrés à Caen.
Merci Valérie.
RTL Midi.
Alexandre de Saint-Aignan.
20 ans après le 11 septembre et le début de l'intervention militaire américaine en Afghanistan, le retour des talibans à Kaboul, la capitale qui est la dernière grande ville encore sous le contrôle du gouvernement afghan. Mais pour combien de temps encore? Des premiers combattants du groupe armé islamique ont été aperçus sur place ce matin, comme nous le raconte cet habitant de Kaboul.
Les talibans encerclent la ville. Mes voisins ont vu qu'ils étaient très équipés. Ils ont beaucoup d'armes lourdes et aussi des plus légères. Il n'y a personne dans les rues de Kaboul. Il faut que nous restions en sécurité, ce sont les consignes. À l'heure où je vous parle, je suis confiné chez moi, avec ma famille. Pour l'instant, il n'y a pas de violence. Les talibans essaient de négocier avec le gouvernement afghan. Mais si ça se passe mal, ils vont entrer de force et ouvrir le feu. Nous ne sommes plus en sécurité ici.
Voilà des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. On l'entendait, le président afghan est en train de céder le pouvoir aux talibans. Bénédicte Tassar, une délégation est arrivée au palais présidentiel.
Oui, et le ministre afghan de l'Intérieur promet un transfert pacifique du pouvoir à un gouvernement de transition. Ne paniquez pas, Kaboul est en sécurité, tente de rassurer son chef de cabinet sur les réseaux sociaux. Les talibans se sont donc arrêtés aux portes de Kaboul en attendant que la direction du pays ne leur soit donnée sans aucun combat. Dans Kaboul, c'est maintenant désert. Vous avez entendu cet habitant, mais ce matin, il y a eu une ruée vers les distributeurs pour retirer les économies. Les banques sont maintenant fermées, tout comme les magasins, l'université, où les jeunes étudiantes ont dit adieu à leurs professeurs. Dans les salons de coiffure, on a retiré les portraits des femmes des devantures. On a vu des voitures quitter l'ambassade américaine, probablement vers l'aéroport pour évacuation. La Russie, elle déclare ne pas évacuer son ambassade et travailler pour une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, les talibans viennent d'annoncer que les étrangers seront autorisés à quitter Kaboul par les airs. Ceux qui souhaitent rester doivent s'enregistrer auprès des insurgés islamistes.
Voilà une situation très tendue qu'on va continuer de suivre avec vous toute la journée. Bénédicte Tassar. En Haïti, le bilan pourrait s'aggraver encore dans les prochaines heures au lendemain d'un violent séisme qui a fait déjà au moins 304 morts et plus de 1800 blessés dans le sud-ouest de cette île des Caraïbes. L'état d'urgence a été déclaré pour un mois. De nombreux bâtiments se sont effondrés lors de la puissante secousse qui a piégé des centaines d'habitants sous des dalles de béton. Les États-Unis ont promis leur assistance immédiate. Au Liban, un nouveau drame la nuit dernière. 28 personnes sont mortes, tuées par l'explosion d'une citerne d'essence. Ils tentaient de s'approvisionner en carburant dans un pays en pleine pénurie, paralysé par l'une des pires crises économiques au monde depuis 1850, selon la Banque mondiale. Dans l'actualité aussi en France, la multiplication inquiétante des noyades sur le littoral atlantique. Un homme est mort noyé à Deauville hier, à Ouistreham. Là, c'est un garçon de 8 ans qui a dû être secouru, retrouvé inconscient inconscient. Il est hospitalisé en urgence absolue. Même constat dans le sud-ouest où on compte pas moins de 3 noyades dans les dernières 24 heures. Un phénomène dû à la chaleur, mais aussi aux baïnes, ces courants qui emportent les nageurs loin de la plage. Juliette Chaignon.
Une journée très intense, oui, hier au Porge. Vincent Bousinière est le chef de plage.
On avait énormément d'apports d'eau. Les vagues faisaient entre 1m50 et 1m80. Donc on a eu des courants de baïnes très actifs ici sur la plage du Porge Océan, ce qui nous a amené à sortir directement 20 personnes de l'eau, qui savaient nager mais qui étaient emportées dans le courant de baïnes. Et ensuite on a sorti 10 autres qui ont été, eux, directement emportés dans la baïne. Et ça, ça a nécessité l'utilisation de la bouée tube et du filin.
Sur la plage, les touristes connaissent rarement ces baïnes.
Vous connaissez les baïnes ?
Non.
Les locaux, eux, savent qu'à l'océan, il faut rester sur ses gardes.
On reste pas loin des drapeaux bleus. On sait qu'il y a des baïnes aussi, surtout en marée descendante. Donc là, la marée descend, donc on fait une petite pause, on est fatigué. Donc du coup, on va aller déjeuner.
Vous savez ce qu'il faut faire si vous êtes pris dans une baïne ?
Et il faut faire la planche, ne pas trop lutter et se laisser emporter et agir avec les bras pour que les sauveteurs nous repèrent et puis attendre qu'on vienne nous chercher.
Et si vous voyez quelqu'un pris dans une baïne hors de la zone surveillée, vous pouvez toujours faire le 112.
Voilà, soyez très prudents. Juliette Chaignon à Bordeaux pour RTL. Des manifestants encore très nombreux hier contre le pass sanitaire. Près de 215 000 personnes à travers toute la France. Des cortèges la plupart du temps sans violence et qui rassemblent souvent des opposants aux idées assez différentes. Entre ceux qui veulent défendre leur liberté, dénoncer une forme de dictature, mais aussi des comparaisons entre la crise sanitaire et la Shoah. Après des étoiles jaunes non vaccinées, on voit dans les cortèges apparaître des pancartes antisémites. Hier encore, la préfecture de Paris a annoncé qu'elle allait saisir la justice pour des faits de provocation publique à la haine raciale. Et dans ce contexte, une stèle de Simone Veil a été à nouveau dégradée hier en Bretagne, sur la place de la mairie de Perros-Guirec. Des tags antisémites pour la 4e fois en 2 semaines. L'avocat Patrick Lugman, militant antiraciste et ancien président de l'Union des étudiants juifs de France.
On doit s'inquiéter de ces signaux, de ces actes qui s'accumulent parce qu'ils dénotent un climat. D'un climat qui n'est pas sain, d'un climat qui n'est pas bon, et d'un climat dans lequel on cherche des responsables dont on ne sait même pas très bien quoi. Dès lors qu'on ne sait pas attribuer de nom à ceux qui dirigeraient réellement le pays au-delà des institutions que nous connaissons, eh bien on va donner des noms juifs, qui n'est rien d'autre que donner des gens à la vindicte et à la haine en disant « vous souffrez, eh bien voilà les responsables, on vous les offre ». Il faut tirer les conséquences juridiques de ces rassemblements et de ce qui s'y passe. Chaque fois qu'il y a une polémique qui a monté sur des messages particulièrement ignominieux, les réseaux sociaux ont su rapidement identifier les auteurs, la police ou la justice s'en est saisie, et notamment après la manifestation de Metz, on a eu une interpellation, une garde à vue, et il y aura un procès le 8 septembre.
Des propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL. C'est le premier week-end depuis l'extension du pass sanitaire au restaurant, au bar, au train longue distance, et ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Le système informatique qui permet aux pharmacies de délivrer les QR codes a planté vendredi après-midi, sans doute face à une demande trop importante. Résultat, même avec un test antigénique négatif, ça a été très compliqué pour obtenir un pass sanitaire tout le week-end. Alors pour éviter que ça recommence le week-end prochain, le ministère de la Santé a prévu un plan B, comme nous l'explique Gilles Bonnefond, porte-parole de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.
Les pouvoirs publics ont décidé d'autoriser les pharmaciens, s'ils n'arrivent pas à faire l'enregistrement, à donner une attestation papier avec le tampon, la date et l'heure à laquelle on a réalisé le test, bien sûr son résultat, la marque du test pour pouvoir bien identifier, de signer cette attestation et de permettre à ceux qui n'ont pas de QR code de pouvoir le montrer pendant ce week-end.
Et cette solution n'est valable que pour le week-end du 15 août, sachant que ça pourrait se reproduire dans les prochaines semaines ?
Alors, pour l'instant, les pouvoirs publics ont décidé de le faire pour le 15 août. Bien évidemment, si la panne continue, ce que personne n'espère, on aura cette procédure qui sera prolongée. Il y aura de la réactivité, parce que l'objectif, c'est pour les personnes qui ont fait l'effort de se dépister, mais qui ne soient pas pénalisées par une panne informatique.
Des propos recueillis par Aurélia Valarié pour RTL. Et sachez que ce papier, donc délivré par le pharmacien, est valable 12 heures. La situation sanitaire continue de se dégrader dans les Antilles, notamment en Guadeloupe, où près de 1200 nouvelles contaminations sont détectées chaque jour. Les hôpitaux sont saturés. Pour tenter de les soulager, un avion s'est envolé cette nuit de la Martinique avec 6 patients intubés à bord qui doivent ensuite être pris en charge dans les hôpitaux de la région parisienne. Dans un instant sur RTL, des fidèles moins nombreux, mais des fidèles quand même, à Lourdes pour célébrer l'Assomption.
RTL Midi.
Alexandre de Saint-Aignan. RTL Midi. Alexandre de Saint-Aignan.
À 12h41, quelques 9300 personnes hier soir à Lourdes pour la procession mariale au flambeau à la veille du 15 août. Une fréquentation moins forte qu'en temps normal pour le traditionnel pèlerinage en raison de la crise sanitaire. Mais ce dimanche, plus de 10 000 pèlerins étaient présents dans la cité mariale pour assister à la célébration de l'Assomption. Benjamin Pelsi.
Oui Alexandre, la basilique Saint-Pilice finit de se vider de ses fidèles. La messe aura duré deux heures de recueillement, de prière et de chant pour ces catholiques. Mais avec l'Esprit Saint, c'est bien le Covid qui a plané au-dessus de la cérémonie. Pas de passe sanitaire à l'entrée, mais masque et un peu de distanciation. Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, a tenu l'homélie, un discours axé sur le plaisir de se réunir.
Nous avons pu faire l'expérience avec ce qui s'est passé ces dernières années, que la virtualité de la présence ne suffisait pas. Ici à Lourdes, nous avons pu vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous nous sommes retrouvés vraiment, jeunes et vieux, malades, handicapés, bien portants, tous ensemble, et nous avons pu nous regarder et peut-être nous toucher, bien sûr, en respectant non pas des gestes barrières, parce que la barrière c'est terrible, non, en respectant des gestes sanitaires, ce qui est peut-être un peu différent.
Alors un peu moins de 9000 catholiques étaient présents ce matin dans la basilique, bien plus que l'année dernière.
Benjamin Pelsi à Lourdes pour RTL. Être étudiant, ça coûte de plus en plus cher. Selon une étude de l'UNEF, à quelques semaines de la rentrée universitaire, le syndicat estime la hausse du coût de la vie étudiante à plus 2,5% rien que pour cette année. C'est l'occasion par ailleurs de faire un premier bilan du quinquennat Macron. Le nombre d'étudiants en 5 ans a considérablement augmenté, mais les aides ont diminué, Marie Guerrier.
L'UNEF a calculé que les étudiants touchaient 39 euros de moins par an en aide directe depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et elle a fait la liste. Suppression de l'aide à la recherche du premier emploi, baisse de 5 euros de l'APL et réforme de l'aide au logement, gel du montant des bourses jusqu'en 2019 avec report de la réforme des critères d'attribution. Face à la crise Covid, une aide ponctuelle de 150 euros a été versée aux étudiants boursiers l'année dernière. Ce n'est pas du tout suffisant, dit l'UNEF, qui regrette un moindre investissement dans les aides directes aux étudiants depuis 5 ans par rapport au mandat présidentiel précédent. Le 10e mois de bourse avait été instauré sous Nicolas Sarkozy et François Hollande avait élargi le nombre de boursiers avec la création de nouveaux échelons. Le gel des frais d'inscription à l'université cette année est salué, mais l'UNEF déplore que le ticket de resto universitaire à 1 euro pour tous, décidé pendant la crise sanitaire, ne soit plus appliqué à la rentrée qu'aux seuls boursiers. Le repas repasse à 3,30 euros pour tous les autres étudiants.
La spécialiste éducation de RTL, Marie Guerrier. Une bonne nouvelle pour les gourmands de l'été, c'est le début de la saison des Mirabelles, la perle jaune qui n'a pas trop souffert des intempéries, même si la récolte s'annonce un peu moins abondante cette année. La qualité est au rendez-vous. Dimitri Ramelot, les premiers fruits ont été cueillis hier dans les vergers lorrains.
Première lueur du jour dans les allées de Mirabelier, l'équipe de 10 cueilleurs se prépare à décrocher les premières perles jaunes de l'année.
On a commencé à 6h15, c'est vraiment l'idéal quand il fait frais.
Sabine Gralet exploite les 30 hectares de vergers.
On est en forme à cette heure-là, avant les grosses chaleurs de l'après-midi.
Et la productrice de donner les consignes aux petites mains en haut des échelles.
Ça va Marguerite, tu en as encore assez? Vous faites bien le tour? Vous pouvez venir avec moi, je vous montre le prochain arbre.
Chaque cueilleur, un petit panier autour du cou, choisit méticuleusement les fruits qui vont rejoindre les cagettes, puis les étals.
Il faut essayer de trier donc les plus petites, les plus vertes, les feuilles. Et il faut prendre vraiment que les meilleurs fruits, même en bas des arbres.
Et lorsque les paniers de 6 kilos débordent, comme ceux de Romane et Charlotte, deux sœurs étudiantes, retour près de la remorque du tracteur pour remplir les cagettes.
Voilà Romane, c'est bien. Vas-y, tu peux vider.
Je viens depuis 3 ans parce qu'il y a une bonne ambiance, c'est sympathique. On peut manger des mirabelles pendant qu'on cueille aussi. Et ça permet de faire un petit peu de sous. Je vais acheter une voiture.
Et alors que les cagettes se remplissent très vite, Sabine Gralet goûte de temps en temps une mirabelle.
Elles sont vraiment excellentes.
vraiment super bonne.
Les 120 premières cagettes rejoignent la ferme dans le village. Les fruits seront cette semaine sur les étals et dans les centrales d'achat.
Bon, on a hâte de pouvoir les goûter. Merci Dimitri Ramelot pour RTL. En football, notez la victoire du Paris Saint-Germain hier soir face à Strasbourg. 4-2 cet après-midi. Pas moins de 7 matchs à suivre pour la suite et fin de la deuxième journée de Ligue 1 avec notamment ce soir dans RTL Foot Marseille contre Bordeaux. À 17h, on suivra Lens face à Saint-Etienne. 4 matchs à partir de 15h. Brest-Rennes, Clermont face à Troyes, Nantes contre Metz et Reims face à Montpellier. Et puis à 13h, donc dans un quart d'heure à peu près. Coup d'envoi du match entre Angers et Lyon. On sera sur place dans quelques instants. À suivre dans quelques instants justement, un nouveau chemin d'écrivain avec Bernard Lehu en Bretagne en compagnie de Jean-Marie Gustave Leclésio.
RTL Midi.
Alexandre de Saint-Etienne. Chemin d'écrivain. Bernard Lehu.
Bonjour, un guide exceptionnel vous invite à le suivre aujourd'hui, le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Leclésio. L'an dernier, il a publié « Chansons bretonnes », un livre superbe et touchant dans lequel il raconte ses souvenirs d'enfance au pays de ses ancêtres, la Bretagne. La Bretagne, c'est bien sûr là où nous retrouvons Jean-Marie Gustave Leclésio, à Douarnenez, à la terrasse du Café des Halles de la cité finistérienne, à quelques kilomètres de la maison qu'il possède depuis une trentaine d'années.
Douarnenez, c'est une ville très très particulière. Moi, la première fois que j'ai vu Douarnenez, je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Et c'était peu de temps après la guerre. C'était à l'époque où la région était entièrement communiste. C'était une région dure d'ouvriers, de pêcheurs qui ressemblaient plus à des ouvriers de la mer qu'à des marins.
Et vous écrivez d'ailleurs dans votre livre « Chansons bretonnes », ce fut un choc, cette découverte, cette première excursion à Douarnenez.
Oui, un choc parce que pour arriver à Douarnenez, il faut descendre. On passe une sorte de col entre le versant sud et le versant nord du Finistère. Et là, on descend continuellement. Et au bout de cette longue descente, nous étions en voiture, la voiture de mes parents, qui était une vieille guimbarde, une Renault Mona 4 très usée, dont les freins marchaient très mal. Et je me souviens que mon père était angoissé à l'idée qu'il ne pourrait peut-être pas s'arrêter au bout de la descente. Et puis, arrivé au bout, on entre dans une ville ouvrière, où tous les gens étaient habillés de la même façon, donc habillés en bleu sombre, tous portant une casquette, vraiment tous identiques. Et ces gens avaient un air très fermé. C'était une ville de combat, c'était une ville de combat social. Et moi, j'étais un gosse finalement plutôt de riche. J'étais habitué à la Côte d'Azur. De la Bretagne, je connaissais surtout le versant aimable du Finistère Sud, dans lequel il y a des tamaristes, des propriétés au bord de la mer. Et j'arrive dans cette zone qui était la Bretagne pure et dure des combats. Et ça m'a vraiment beaucoup frappé. Et par la suite, ma mère m'a raconté des choses qui témoignaient de la violence de la vie dans cette région du Finistère. Elle me racontait que mon grand-père, qui était un médecin, donc un bourgeois, et se promener à Douarnenez habillé comme un bourgeois, c'est-à-dire un complet veston, gilet, et chapeau et panama. Et un ouvrier lui a craché dessus. Et ça a été un choc pour ma mère, qui était un enfant à l'époque, de voir qu'on pouvait cracher sur son père juste parce qu'il était habillé comme un bourgeois. Et bon, les choses ont bien changé maintenant, on n'en est plus là. Ça a été un des premiers lieux en France dans lesquels les femmes se sont battues. Socialement. Les premières grèves d'ouvrières, c'était ici à Douarnenez. Elles ont fait la grève parce qu'elles étaient très maltraitées. Elles devaient travailler debout, à éviscérer et mettre en boîte les maquereaux et les sardines pour un salaire vraiment assez misérable. Et donc la vie était dure. Et elles ont décidé un jour que ça suffit comme ça. C'était vraiment des bretonnes. Elles parlaient en breton. Elles allaient à l'atelier avec leurs costumes de bretonnes. Elles n'étaient pas encore des costumes d'ouvrières. Et ça a été le premier combat féminin, un des premiers. Il y en a eu à Paris aussi, mais ici à Douarnenez, ça a été une des zones de combat des femmes. Et je crois qu'il en est resté quelque chose. Les femmes sont toujours très importantes à Douarnenez.
Mais alors aujourd'hui, évidemment, que reste-t-il de cette mémoire et de cette histoire ouvrière ici à Douarnenez?
Il en reste plus que l'on imaginerait. Les sardineries sont pratiquement fermées. Quand on va sur le port, et nous allons y aller tout à l'heure, on ne voit plus de bateaux de pêche, il y a très peu. Mais il reste quelque chose de l'esprit de Douarnenez dans le fait que c'est une ville qui a une forte originalité sociale. Et c'est une ville, par exemple, qui accueille beaucoup des gens économiquement faibles, des gens qui ne sont pas fortunés. Et ils sont tout à fait tolérés, ils font partie de la ville, ils dorment dehors, mais on ne les emmerde pas, ils sont plutôt bien traités. C'est aussi une des villes qui est combative au niveau mondial. Parce que, par exemple, à Douarnenez, il y a un festival de musique, un festival de culture qui a lieu chaque année et on a invité des gens du Sahara occidental. C'est la seule ville de France qui s'est jumelée avec le Sahara occidental. Le Sahara occidental qui est actuellement une colonie marocaine. Donc les douarnenistes ont pris parti pour les Sahraouis contre les nouveaux colons. Et je trouve ça intéressant.
Alors, nous allons nous promener dans cette ville, Douarnenez.
Je finis ma boisson gazeuse.
Merci.
On va descendre vers le port.
Oui, donc nous allons prendre la rue centrale qui est là. Quand vous venez à Douarnenez en hiver, c'est une ville qui n'est pas éteinte, qui n'est pas... Les volets ne sont pas fermés, les gens vivent à Douarnenez. Et il y a la présence de tout ce dont on a parlé, mais aussi cet esprit presque d'indépendance, de petite ville indépendante. La langue bretonne se maintient ici à Douarnenez. C'est à Douarnenez que j'ai entendu des jeunes d'une vingtaine d'années qui parlaient entre eux en breton. J'étais dans un bureau de poste. Ça m'a fait plaisir de voir des jeunes qui continuaient d'entretenir la langue dans la vie courante, en allant au bureau de poste, par exemple. Et c'était une langue que j'ai peut-être un peu pratiquée quand j'étais enfant, que je jouais avec les enfants, et dans laquelle il était nécessaire de temps en temps de dire quelques mots en breton pour dire, je ne sais pas, « Warauk, allons-y !» Je sais dire « Abzerzo », comme on doit toujours dire en Bretagne à chaque fois.
C'est-à-dire ?
On a le temps. Si on essaye de vous presser, il faut répondre ça. J'ai un frère aîné qui, lui, a bien appris la langue bretonne quand il venait en Bretagne. Et donc, depuis ce moment-là, avec mon frère, nous échangeons en breton. Quand nous avons des nouvelles à nous donner, nous écrivons, soit sur Internet, soit par lettre, nous écrivons des mots en breton.
Alors, nous arrivons sur le port et cette baie de Douarnenez.
Oui, c'est une baie qui est extrêmement accueillante. Nous voyons des quantités de petits bateaux. La plupart de ces bateaux servent tous les jours et qui servent aux gens pour aller déposer des filets dans la plupart des criques qui sont autour de cette baie. Et ils récoltent des araignées de mer, ils récoltent des crustacés, des crabes. Les araignées de mer sont particulièrement réputées dans la baie de Douarnenez.
Il y a les odeurs aussi. Nous sommes là au bord de l'eau. Je crois que vous êtes très très sensible à ce que vous appelez l'odeur de l'eau.
Oui, c'est vrai qu'en Bretagne, c'est très particulier. Du fait des marées, deux marées hautes et deux marées basses, on vit sur ce rythme-là et on peut sentir l'arrivée de la mer. La nuit, par exemple, moi je dors avec la fenêtre ouverte et quand la mer commence à monter, je sens l'odeur de la mer qui envahit la chambre dans laquelle je suis. Et c'est cette impression qu'on participe au mouvement de la mer, au mouvement des océans. On n'est pas uniquement des terriens.
Quand vous êtes ici, qu'aimez-vous faire? Quelles sont vos activités de prédilection?
Pour moi, c'est avant tout, c'est écrire. C'est en Bretagne que j'écris le mieux, parce que je ne sens pas cette pression que l'on sent parfois quand on est à Paris. Je trouve un décalage dans la vie, je trouve qu'il y a une bizarrerie, je crois, pour moi, essentielle pour écrire.
Est-ce qu'on peut dire que la plupart de vos textes sont donc nés ici ?
Oui, oui, la plupart des textes sont nés ici, et sont nés sur des souvenirs que j'ai reçus pendant mon enfance. Et puis qui m'ont nourri, qui m'ont accompagné.
Cette Bretagne, le pays qui m'a apporté, qui m'a donné le plus d'émotions et de souvenirs, dites-vous.
Oui, oui, parce que c'était la Bretagne qui, au fond, me permettait de trouver la liberté dont les enfants sont très gourmands. Ils ont besoin de liberté. Et la Bretagne était le pays de la liberté. Nous allons quitter les environs du port et nous allons remonter. Je vais vous montrer. Et là, nous sommes devant l'abri du marin, qui était une institution faite pour tous ces pêcheurs qui menaient des vies très dures, qui étaient pour beaucoup des alcooliques. On les incitait à se retrouver ensemble et à faire autre chose que de boire des coups. Donc là, aimez-vous les uns les autres. Bon, c'est une formule religieuse, mais c'était aussi une formule importante pour les pêcheurs.
Une formule qui est donc gravée sur la façade, oui, de cet abri du marin.
L'abri du marin, il y a ça dans presque toutes les villes de Bretagne. Et je suis assez touché de voir qu'en Bretagne, enfin dans cette Bretagne-là, c'est resté intact. Les pêcheurs ne s'y retrouvent plus, puisqu'il n'y a plus beaucoup de pêcheurs. Mais on a gardé la mémoire de cette époque où la pêche était un métier très difficile, un métier très dur, pour lequel il fallait montrer beaucoup de courage. C'est très tragique l'histoire de la pêche en Bretagne, parce que les Bretons ne méritaient pas d'être assez maltraités comme ils l'ont été par les traités européens. Et les traités européens ont nui énormément aux Bretons et aux gens qui vivaient de la pêche et même, d'une certaine façon, de l'agriculture.
C'est voilà. Une ville de montée et de descente, Douarnenez.
C'est une ville de côte. Donc c'est une ville où il faut se donner du mal pour circuler.
Là, cet escalier de granit est superbe.
Oui, les vieux escaliers en granit, on peut imaginer l'époque où les pêcheurs descendaient là pour aller à la mer. Là, on entend le silence de Douarnenez, ponctué par les cris des goélands.
Et est-ce qu'il y a justement d'autres bruits auxquels vous êtes sensible, enfin qui pour vous caractérisent la Bretagne ?
Oui, ce serait plutôt le bruit du vent, la chanson du vent, la musique du vent. Lorsqu'il souffle en Bretagne, ce n'est pas rien. C'est vraiment un déplacement d'un élément important de l'univers. On l'entend passer sous les portes, siffler dans les fenêtres. Et ça, j'ai ce souvenir-là. Étant enfant, des nuits où nous ne pouvions pas dormir parce que le vent sifflait dans les fenêtres.
Nous voici devant les Halles. Nous y entrons, nous les traversons. Oui,
oui, cette sorte d'écho qu'il y a sur le sol des Halles qui fait qu'on a le sentiment d'être dans le cœur ou dans le ventre de la ville.
Vous y venez là, faire votre marché régulièrement.
Et quand on a Amcerceau, quand on a le temps, on peut faire la queue pour acheter les fruits à l'intérieur qui sont très bons. Les fraises que vous trouvez ici à l'intérieur des Halles, c'est supérieur. Ça n'a rien à voir avec les fraises des supermarchés.
Et le poisson, évidemment.
Oui, tous les poissons qui sont estampillés Atlantique Nord. Mais Atlantique Nord, ça veut dire ici. C'est ça. C'est
la,
ça
pêche, qui... la pêche locale. Ouais, ouais. Oui.
Bon, il y a les grondins, il y a les rougets, les soles. Les soles sont très très bonnes. On va sortir par là.
Bien, voilà un magnifique banc devant les Halles qui nous attend. Nous allons nous y poser. Et pour terminer votre chemin d'écrivain à Douarnenez, Jean-Marie Gustave Le Clézio, je vais vous demander de nous proposer une chanson, une musique que vous avez envie d'associer à cet échange que nous venons de partager avec vous.
Alors ce n'est pas une chanson bretonne, mais c'est une chanson sur un rythme de rhythm and blues, c'est-à-dire du rock, dont le titre c'est « Bizarre ». Quand on l'écoute, on comprend bien ce que veut dire ce titre. C'est le décalage qu'il y a dans la vie. En fait, la vie, c'est un décalage permanent. Donc, et ça, je crois que ça va assez bien à la Bretagne.
Et interprété par ?
Interprété par un groupe qui s'appelle Junior, avec un E à la fin. Ce sont des filles qui chantent. Elles ont une trentaine d'années. Donc elles se sont dit, c'est le moment encore de s'appeler Junior, dans pas longtemps, on ne pourra plus.
Merci Jean-Marie Gustave Le Clézio. Comment dit-on merci en breton d'ailleurs ?
Trugarez.
C'était Le chemin d'écrivain de Jean-Marie Gustave Le Clézio. Chanson bretonne, le livre du prix Nobel de littérature est publié par Gallimard. Dimanche prochain, nous irons dans le Var avec le lauréat 2021 du Grand Prix RTL Lire, Jean-Baptiste Andréa. Bel après-midi à vous.
Merci Bernard Lehu, dans un instant sur RTL, il sera 13h.
RTL Midi,
Alexandre de Saint-Aignan.
Il est 13h.
RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Et un dernier rappel des principaux titres de l'actualité. Les premiers talibans entrent dans Kaboul ce dimanche. Après avoir pris le contrôle de la plupart des grandes villes d'Afghanistan ces derniers jours, une délégation des talibans est actuellement au palais présidentiel pour lancer des négociations avec le gouvernement afghan. C'est la première fois que le groupe islamique armé revient dans la capitale afghane depuis le début de l'intervention militaire américaine sur place en 2001. En Haïti, le bilan pourrait s'aggraver encore dans les prochaines heures au lendemain d'un violent séisme qui a fait déjà au moins 304 morts et plus de 1800 blessés dans le sud-ouest de cette île des Caraïbes. L'état d'urgence a été déclaré sur place pour un mois. Au lendemain de nouvelles manifestations contre le pass sanitaire, une rave party est en cours en Dordogne. Plus de 1500 participants depuis hier soir sous la supervision des gendarmes. À Lourdes, malgré l'épidémie, plusieurs milliers de pèlerins ont assisté à la messe de l'Assomption. À leur côté, 300 malades, c'est beaucoup moins que d'habitude. Mais c'est déjà mieux que l'an dernier, le pèlerinage avait été annulé. En football, la suite de la deuxième journée de Ligue 1 avec d'abord Angers qui affronte Lyon, Philippe Audouin.
Oui, Alexandre, bonjour. C'est parti depuis 2 minutes sous un magnifique soleil à Angers, mais devant une petite chambre et 6 à 7 000 spectateurs seulement. C'est décevant alors que le public était privé de ça depuis un an. Rien à signaler pour le moment dans ce match. Rappelons quand même que le SCO a mieux entamé son championnat que l'Olympique Lyonnais puisque les Angevins se sont imposés 2-0 il y a une semaine à Strasbourg alors que Lyon avait lui concédé le nul à domicile face à Brest il y a 8 jours. Réaction attendue donc de la part des joueurs de Peter Bosz, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, 0-0 donc après un peu plus de 2 minutes.
Merci Philippe Audouin. Il y a 6 autres matchs de foot à suivre cet après-midi pour la deuxième journée de Ligue 1 avec notamment ce soir dans RTL Foot, Marseille contre Bordeaux. La météo, Valérie Quintin, dernière ligne droite pour la vigilance canicule dans le sud-est. Valérie Quintin, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, c'est vrai que la vigilance s'arrêtera à la fin de la nuit prochaine. En attendant, cet après-midi, les températures seront encore très élevées, jusqu'à 40 degrés prévus à Uzès, dans le Gard. Il fera 36 degrés à Saint-Tropez et à Grenoble, 35 à Périgueux, 32 degrés à Besançon et Poitiers, 31 dans la capitale, 29 degrés à Rouen, 24 à Brest, avec un ciel globalement bien dégagé. On va avoir quelques orages en fin de journée entre la Franche-Comté, le Massif central et les Pyrénées. Puis il faudra compter sur un ciel toujours un petit peu plus chargé près des côtes atlantiques et près des côtes de la Manche.
Merci beaucoup Valérie. Il est 13h03 sur RTL. Voici les Voix du Crime avec Diane Douzillet.